16h21 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Je le réitère parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, là, ou du moins il y en a eu beaucoup dans les dernières heures en espérant que ça se règle tranquillement, pas vite. S'il se passe quelque chose sur les routes, n'hésitez pas, 418-971-102.1, c'est le numéro pour me rejoindre par texto. Et c'est le même numéro si vous avez envie de peut-être me proposer des pistes de questions pour notre prochain invité. Je me prépare très adéquatement, évidemment, mais des fois, d'autres têtes peuvent réfléchir beaucoup mieux que la mienne. Et c'est le cas de vos têtes aux auditeurs. C'est le cas aussi de la tête de Georges Mercier, qui, j'ai l'impression, peut aller à des places où ma tête n'est pas nécessairement capable d'aller. Puis c'est pour ça qu'on aime ça lui jaser. J'ai quasiment eu envie de dire chaque lundi, là, parce que c'est comme... Ça devient une tradition que la fin de semaine, ça brasse à l'international, aux États-Unis. Fait qu'on fait appel à Georges Mercier, analyste politique. Georges, salut, bon lundi.
Salut, Maxime.
On va commencer avec... J'ai l'impression que c'est le sujet chaud ce matin parce que, tu sais, oui, on va venir là, à Donald Trump qui a interpellé encore une fois Mark Carney puis là, parle de tarifs si on continue de négocier avec la Chine. On va y venir. Mais ce qui se passe du côté des États-Unis, ça s'en vient franchement effrayant. Une autre personne, un homme cette fois, qui a été abattu par l'ICE, la police de l'immigration des États-Unis en fin de semaine, dans des circonstances, bon, je veux dire, qui restent floues dans le sens où on n'a pas encore d'enquête puis de résultats d'enquête, puis on n'a pas tous les morceaux du casse-tête, mais on a des vidéos qui sont devenues virales qui nous montrent un gars, oui, qui portait légalement une arme à feu, qui se fait retirer son arme à feu par un agent alors qu'il y a altercation impliquant cet homme-là et plusieurs agents. Puis après s'être fait retirer son arme à feu, qui se fait tirer dessus à plusieurs reprises, qui a mené à sa mort. Là, l'administration Trump continue de prendre la défense des agents, peu importe les circonstances. Pas besoin d'enquête, il n'y en a pas de problème. Les autorités locales se retrouvent dans une position, j'ai envie de dire, un peu compliquée. C'est quoi la suite des choses? On est-tu en droit de s'inquiéter? T'sais, je veux pas parler de guerre civile nécessairement, mais... On dirait que ça peut mal virer, toute cette histoire-là.
Ben, c'est certainement inquiétant. Ce à quoi on assiste peut-être en ce moment, c'est un genre de point de rupture par rapport à la politique d'immigration de la Maison-Blanche. Parce que si on prend un pas de recul, ce qui se passe en ce moment au Minnesota, c'est un conflit direct entre la volonté de l'administration Trump de mettre en place son agenda anti-immigration qui est très musclé, qui est parfois brutal, qui est très sévère, et la résistance, en quelque sorte, d'États démocrates qui, eux, ne partagent pas ces valeurs-là, ne veulent pas nécessairement que les troupes de ICE, et là, je dis troupes haïtiennes, les troupes de l'Agence de contrôle de l'immigration américaine, rentrent dans leur État pour, finalement, faire leur travail de contrôle d'immigration. Pourquoi est-ce que je dis troupes? Parce que ça, il faut bien le rappeler, il y aurait en ce moment 3000 membres de ICE au Minnesota dans un État qui ne posséderait qu'environ 600 membres des forces de police. Donc, il y a plus de troupes de ICE que des policiers normaux du Minnesota. Plus encore, le problème avec ICE aux États-Unis, c'est que c'est perçu de plus en plus comme une genre de milice personnelle du président, comme un genre de groupe paramilitaire qui irait appliquer sa volonté par-delà la volonté des entités fédérées, donc des États. Et deuxième élément là-dessus, il y a eu un recrutement massif du personnel et ce sont des gens à qui on donne une arme à feu sans nécessairement qu'ils aient eu la formation appropriée, les compétences appropriées ou même seulement les valeurs appropriées pour servir dans les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'aux États-Unis, dans le sillage de ce qui n'était pas un meurtre, mais quand même de l'assassinat de M. Petit, il y a plusieurs corps de police qui ont dit qu'il n'y a pas un policier bien formé qui aurait agi comme ça. Parce que oui, la situation demeure peu claire, mais ce qu'on voit dans les vidéos, c'est quand même un homme qui était déjà au sol, déjà contrôlé, qui a été abattu de 10 coups de feu. Et là, c'est rendu que même Fox News, la grande chaîne plus à droite américaine qui est souvent sympathique à Donald Trump, même Fox News dit qu'il est peut-être temps d'arrêter avec ce type de politique-là et de revenir un peu en arrière.
Ben, d'ailleurs, Georges Mercier, ça me mène à te demander, est-ce qu'on peut vraiment espérer un changement de ton de Donald Trump? Parce qu'on sait, oui, c'est un gars des fois qui peut dire tout et son contraire, mais sur l'ICE, c'est cette brigade-là d'agents formés plus ou moins, les agents de l'immigration des États-Unis, on dirait qu'il n'a pas l'air parti pour reculer, puis il n'a pas l'air parti pour donner le moindre bénéfice du doute à quelqu'un qui critiquerait cette brigade-là.
Ah non, c'est certain que le discours actuel de la Maison-Blanche, c'est tous ceux qui critiquent ICE sont des extrémistes de gauche, ce sont même
Exact.
des terroristes intérieurs, comme disait la secrétaire de l'Intérieur. Cela étant dit, là, je veux dire un truc qui est très, très, très cynique, mais très réaliste aussi. Quand il y a bavure policière, quand il y a des visiblement usage de la force non justifiée, la victime importe. La population américaine ne se soulève pas de la même manière pour différentes victimes. Là, l'homme qui a été abattu, c'était un infirmier dans une unité de soins intensifs qui n'avait aucun antécédent, qui apparemment aimait promener son chien puis se promener dehors, donc un bon Jack qui était aussi blanc. Si bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de sympathie, il suscite beaucoup, beaucoup de sympathie, et là, notamment, les démocrates au Sénat américain menacent de ne pas financer le gouvernement, donc provoquer une autre fermeture du gouvernement, si on ne restreint pas le financement à l'AS. Donc, si ça fonctionne, ça met une pression sur Trump. Si des élus républicains demandent une enquête indépendante, ça met de la pression sur lui. Le Wall Street Journal, le grand journal de la droite américaine, a fait un éditorial où il disait, là, il faut aussi se calmer là-dessus. Est-ce qu'il va reculer? Ce serait peut-être dans son intérêt de le faire. Et s'il ne veut pas reculer lui-même, peut-être qu'on va pouvoir enfin le forcer à reculer. Deuxième élément, bien, au Minnesota, vous avez aussi des manifestations massives, plusieurs milliers de personnes qui manifestent. La semaine dernière, on a eu une journée où les commerces étaient fermés. Et c'est bien une chose à laquelle Trump est sensible, c'est l'économie et le roulement de l'économie.
On a l'impression, ben, puis pas juste on a l'impression, on entend énormément parler de l'ICE depuis quelques semaines, cette police de l'immigration des États-Unis qui pourtant existe depuis 2003. Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, tout d'un coup, ça devienne aussi big puis qu'on en parle autant? Ça a été quoi le changement? Ça existe depuis 23 ans.
C'est qu'elle a profondément changé, ce Donald Trump, cette force policière-là. Pourquoi? Parce que son budget a immensément augmenté. Tenez une idée, là, le budget de l'AS est plus important que le budget de certaines armées dans d'autres États. Donc, c'est gigantesque. Le nombre d'agents a augmenté. Puis surtout, la mission qui leur a été donnée a été décuplée par l'administration Trump, qui vraiment en a fait le bras armé de sa politique de gestion de l'immigration. C'est pour ça qu'on en parle autant, parce que les processus de recrutement sont pas les mêmes, les gens qui sont recrutés là ne sont pas les mêmes, et le rapport à la présidence est différent du rapport des autres corps de police. Donc, il y a vraiment cette perception-là, comme quoi ce serait, voilà, la milice privée de Donald Trump, privée, la milice qui répond à lui, qui met en place son agenda, et c'est pourquoi ça devient une figure, ça cristallise l'opposition. Mais là, l'autre problème, c'est comment est-ce qu'on dépeint ICE? Parce que dans les manifestations au Minnesota, il y a des gens qui disent l'ICE, c'est des nazis. Bon, si on commence à parler de nazis, de groupes d'extrême droite, de milices paramilitaires, c'est pas le même type de manifestation que ça appelle. Je note quand même que l'homme qui a été abattu, évidemment, il avait le droit, apparemment, de porter une arme. Il s'était quand même rendu à une manifestation avec une arme. S'il y a des manifestants américains qui sentent qu'ils ont besoin désormais pour se protéger de porter des armes lorsqu'ils vont dans des manifestations pacifiques, là, on peut avoir une escalade très, très inquiétante.
Georges Mercier, on change de sujet. On reste sur le cas toutefois de Donald Trump, mais maintenant plus en lien avec le Canada parce qu'il menace d'imposer des tarifs douaniers de 100% si le Canada conclut une entente avec la Chine. L'affaire, c'est que, je veux dire, le Canada, tu sais, on a déjà des liens avec la Chine au niveau de ce qu'on consomme. Les États-Unis aussi, d'ailleurs. Pourquoi là, tout d'un coup, c'est devenu un problème, puis Trump nous dit, si vous avez un deal avec la Chine, ben je vous impose telle affaire. Puis là, il y a comme toute la notion de OK, mais c'est quel genre de deal aussi? Puis est-ce que c'est conforme au deal qu'on a avec les États-Unis? Il y a quand même plusieurs couches à tout ça, là.
Bien, il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est que pour la Maison-Blanche actuelle, les États-Unis sont l'État le plus puissant des Amériques et ils devraient avoir un droit de veto sur la politique des États des Amériques. Donc, par exemple, le Canada peut pas faire ce qu'il veut sans demander l'accord des États-Unis. Et les États-Unis pourraient, selon Donald Trump, dire non, tu ne peux pas adopter cette politique-là. Élément un. Élément deux, la Chine est considérée par les États-Unis comme leur adversaire stratégique le plus important. Donc, dans les doctrines officielles qui ont été publiées par la Maison-Blanche, la Chine, c'est sinon l'ennemi, au moins le compétiteur auquel on doit tenir tête. Donc, lorsque le Canada, lorsque Mark Carney s'en va en Chine et semble vouloir engager une détente avec Xi Jinping, qu'est-ce qu'il envoie comme message aux États-Unis? Ben, A, on a beau être voisins, je peux avoir une politique différente de la tienne. Et B, je vais avoir un accord avec ton compétiteur qui va peut-être l'aider lui aussi dans ses relations internationales. Donc, c'est clairement perçu comme une attaque pour les États-Unis. Le dernier élément là-dessus, Le Canada, ce qui explique notre faiblesse, c'est vraiment une faiblesse par rapport aux États-Unis, c'est que c'est notre principal partenaire commercial. Donc, il nous tient à la gorge parce que nos exportations vont beaucoup là-bas. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer un peu de ça? Parce qu'on ne s'en libérera jamais complètement. Eh bien, on cherche de nouveaux partenaires commerciaux. Donc, lorsqu'on va faire cet accord-là, qui n'est pas très, très significatif d'ailleurs, il y a 49 000 véhicules électriques, suspension des tarifs chinois contre le canola des prairies, ce n'est pas un accord révolutionnaire, mais lorsqu'on va faire ça, ce qu'on envoie comme signal à Washington, c'est regardez, on veut être moins dépendant de vous, on veut reprendre notre souveraineté. Donc, évidemment que Donald Trump, lorsqu'on lui présente les choses comme ça, et d'autant plus lorsqu'on sort d'une semaine à Davos où c'est Mark Carney qui a brillé et certainement pas Donald Trump, eh bien, non seulement son ego est piqué, mais les intérêts stratégiques américains sont piqués, ce qui appelle une réplique tout de suite après.
Ce ton-là de Mark Carney et cette ouverture-là aussi, j'ai envie de dire, au monde, de dire l'ordre mondial a changé, puis tu sais, tout ce qu'il a dit dans son discours du côté de Davos. Est-ce que c'est le bon ton? Puis ça, il y a différentes opinions là-dessus. Il y en a qui disent, ouais, c'est poke the bear en tabarouette, puis regarde ce que ça fait, c'est que Trump te menace de te mettre 100% de tarifs. Il y en a qui disent, regarde, à un moment donné, c'est pas nous autres qui a commencé cette chicane-là. On a le droit d'aller voir ailleurs. Où tu te positionnes dans tout ça?
Ben, il y a la question du ton, puis il y a la question des moyens. C'est est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre les moyens du ton qu'on emploie? Parce que la marche à suivre que Mark Carney nous a donnée à Davos, c'est la bonne. Face à un pays qui est extrêmement puissant, qui est beaucoup plus riche que nous, la seule manière par laquelle les pays un peu moins puissants, un peu moins riches, peuvent lui résister, c'est en s'alliant entre eux. Le problème, donc, on peut faire des grands discours, on peut se montrer un peu courageux, mais il faut être certain qu'on va les avoir, ces alliances-là. Et le problème pour Carney, c'est est-ce qu'il va réussir à signer d'autres partenariats? Est-ce qu'il va réussir à créer finalement ce qu'il semblait vouloir créer, un autre ordre mondial, une autre alliance d'États libéraux pour faire face aux États-Unis ou non? Et s'il ne réussit pas à faire ça, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Alors là, effectivement, son ton est peut-être un peu trop courageux parce qu'il aurait annoncé beaucoup de choses, il aurait pris le risque de se mettre à dos encore plus les États-Unis sans avoir les moyens d'y résister.
Je veux qu'on termine, Georges Mercier, avec, puis on reste avec la thématique des discours de Mark Carney, mais on s'en vient ici à Québec, sur les plaines, jeudi dernier, où, bon, Mark Carney a mis bien du monde de mauvaise humeur avec son discours, puis j'en fais partie, là, j'étais outré de ce qu'il a mentionné, de son... Des niaiseries qui est venu nous dire dans notre face, chez nous, en nous romantisant ce qui s'est passé, ces plaines, puis c'était le début d'une belle collaboration, alors qu'il y a eu des morts, puis il y a eu une guerre, puis il y a rien de, il y a rien de collaboratif là-dedans. Là. On s'est fait pousser dans la gorge que on était maintenant soumis aux Anglais. Puis bon, on a eu le droit de continuer à vivre un peu à notre façon, mais bref, la façon de le dire de Mark Carney avait aucun sens. Cela dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, en fin de semaine, a livré un discours hier au Congrès du Parti québécois. Et ce qu'il a dit, c'est que Mark Carney, avec ce discours-là, a lancé officiellement la campagne référendaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je sais pas. Moi, je pense que ce qui s'est produit la semaine dernière, c'est que Mark Carney était allé à Davos. Il a fait un discours qui a beaucoup plu au commentariat, où tout le monde a loué ses qualités oratoires, rhétoriques, tout ça. Donc, il était sur un high politique. Et là, il s'est dit, je vais aller à Québec, puis à Québec, je vais dire, du point de vue de la politique intérieure canadienne, la même chose que j'ai dit à Davos. C'est-à-dire, il faut s'unir entre les puissances moyennes, mais il faut aussi qu'au Canada, on s'unisse ensemble. Donc, il surfait sur sa popularité de Davos pour aller passer un message. Est-ce que c'est le début d'une campagne référendaire? Ça dépend. Et ça dépend si Mark Carney pense, ah, qu'il va y en avoir une. C'est pas clair pour l'instant. Et si ça l'intéresse vraiment. Parce que c'est pas clair que Mark Carney, c'est un leader comme Pierre-Elliott Trudeau, comme Jean Chrétien, que la question de l'unité canadienne à cœur. C'est pas quelqu'un qui est né, qui a été bercé dans les questions identitaires et nationales québécoises. Donc, ça comme affaire. Et dernier élément, Mark Carney, finalement, ce qu'il cherchait à faire, c'était poursuivre la politique qu'il a mise en œuvre depuis un an d'unification du Canada. Cette politique-là, elle s'oppose au Parti québécois de fait et elle s'opposera toujours aux ambitions d'un parti indépendantiste. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Le gros défi pour le PQ, c'est un vrai défi pour PSPP, c'est d'être capable de faire comprendre aux Québécois que ce n'est pas parce qu'il y a une menace américaine que notre propre question nationale, elle disparaît et elle s'oppose quand même malgré le contexte actuel.
Georges, merci, un gros merci, puis je vais me permettre de te dire à bientôt.
À bientôt, Maxime.
Salut, à la prochaine. Au retour de la pause, on jase bagarre dans la LHJMQ. Êtes-vous ou seriez-vous pour ou contre un assouplissement pour ce qui est des règles des bagarres? On sait que la LHJMQ est devenue excessivement sévère à ce niveau-là et les raisons derrière ça, je veux dire, sont louables. On voulait montrer l'exemple. On se disait, le reste de la Ligue canadienne va nous suivre. On va être des leaders. Ouais, là, l'affaire, c'est que le reste de la Ligue canadienne ne suit pas et ça vient nuire aux joueurs de la LHJMQ. Dans ce contexte-là, c'est Michael Lalancette qui écrit dans Le Soleil qu'à peu près la moitié des directeurs généraux de la LHJMQ seraient en faveur d'assouplissement au niveau des règles de bagarre. On jase de tout ça au retour de la pause. 88-971-1021, pour ou contre un assouplissement au niveau des règles des bagarres dans la LHJMQ? Il est 10h36 dans le Point de Max.